Alors, bonjour à tous. Je remercie Jean-Yves Boivin de nous aider à réaliser cette émission, on va dire, tiens, voilà, réaliser cette émission, enfin, réaliser ce cours par les moyens de la visioconférence. Donc, c'est notre deuxième rendez-vous. Alors, il y a tel ou tel qui a loupé, je pense, le premier rendez-vous en visioconférence et qui m'a envoyé des questions en mail, donc je vais répondre, bien entendu. Et puis, nous continuons sur cette formalité-là, hein, c'est-à-dire, je fais une mise de fond, on peut dire, hein, qui correspond à une synthèse un peu de ce que je pensais vous dire en présentiel, et puis on interréagit ensuite au moment de la visioconférence de groupe. Alors, bon, je démarre puisque Jean-Yves a la chance d'avoir ce matin, enfin cet après-midi, une sorte de préceptorat inattendu. Bon, et puis nous réagirons ensemble. Hein, on s'en rendra mardi. J'ai essayé donc de vous dire dans mon document écrit, mon premier document écrit, que ma manière à moi de présenter ce cours sur les fondements de la morale, c'était de prendre comme point de départ le Concile Vatican II. Pourquoi? Parce que c'est un événement qui nous est plus ou moins familier. D'abord dans le temps, c'est les années 60. Ensuite, parce que de toute façon, c'est l'événement ecclésial majeur du XXe siècle. Et puis parce que ce concile a fait basculer l'Église dans ce qui était souhaité par le pape Jean XXIII, qu'il a ouvert, c'est-à-dire l'aggiornamento, comme on dit en italien, et donc c'est-à-dire la mise à jour du concile, la mise à jour de l'Église dans son rapport au monde, puisque c'est beaucoup ça que le Concile a travaillé, c'est le lien entre l'Église et le monde, le dialogue. Hein, Paul VI dira l'Église est dialogue. Eh bien, le Concile Vatican II a essayé d'ouvrir un dialogue entre l'Église et le monde, les cultures, les religions, etc. Donc, ça a été un axe. Vatican II a été un axe, enfin, un point de repère très fort. Alors, le danger. Si je tire un peu contre mon camp, hein, le danger de commencer avec Vatican II, c'est de se dire que Vatican II est une espèce de point zéro de l'histoire de l'Église et que tout est neuf à partir de Vatican II, qu'on a tellement rebattu les cartes à Vatican II que tout est nouveau. C'est faux, totalement faux, puisque Vatican II, par exemple, a été préparé avant Vatican II, comme je l'ai suggéré dans mon document et dans notre dialogue, c'est-à-dire l'exégèse, la liturgie, ont été largement préparés avant Vatican II. Mais un des grands enseignements de Vatican II, un des grands points de bascule, on va dire, de Vatican II, sera été la promotion des laïcs, bien entendu. Hein, c'est-à-dire, si on peut faire des cours aussi, si les théologiens et les théologiennes, a fortiori les théologiennes, ne sont pas seulement des prêtres et comment dirais-je, des clercs par définition, si chacun d'entre vous, chacune d'entre vous peut faire de la théologie et enseigner la théologie, c'est grâce à Vatican II. C'est-à-dire que là, pour le coup, Vatican II a été le terme de révolution, il n'est pas terrible, mais enfin, a été quand même une nouveauté majeure, puisque la théologie s'est ouverte, l'enseignement de la théologie et puis la spécialisation, on pourrait dire, en théologie, s'est ouverte aux laïcs à partir de Vatican II. Donc, c'est peut-être vous avez entendu parler de la figure du père Congar, le dominicain Congar, Yves-Marie Congar, qui a été un des experts au Concile, hein, et qui a écrit des livres majeurs comme Jalon pour du laïcat, etc. Donc la théologie du laïcat, Vatican II, qui qu'il a promue, qu'il a ouverte. Et donc, si on peut faire de la théologie ensemble aujourd'hui, si vous avez d'autres enseignants en théologie qui ne sont pas des clercs mais qui sont laïcs, c'est que tout ça, c'est grâce à Vatican II. Hein. C'est, la théologie a été ouverte aux laïcs, la théologie est enseignée maintenant par des laïcs, donc c'est une véritable, encore une fois, le mot est inadapté, mais une véritable révolution quand même. Alors, comme je viens de vous le dire, le point, l'erreur, ce serait de dire bon, ben, Vatican II a été tellement important et nouveau que ce n'est pas la peine de savoir ce qui s'est passé avant, ce qui est évidemment une erreur. Et j'ai eu l'occasion de vous dire que le Concile Vatican II, c'est un peu dur de dire ça, c'est un peu sévère, mais n'a pas été un concile qui a beaucoup renouvelé la théologie morale, mais que la théologie morale a été renouvelée après Vatican II. On va dire, dans le souffle, dans l'esprit de Vatican II, d'ailleurs on a beaucoup, c'était une formule presque fétiche de l'époque, l'esprit de Vatican II, le souffle de Vatican II. Donc en morale, c'est après Vatican II que les choses ont été le plus renouvelées, sachant que Vatican II comporte une dimension morale, je l'ai souligné pour Gaudium et Spes, mais c'est principalement les encycliques ou les déclarations des romaines après Vatican II qui ont renouvelé la morale. Alors aujourd'hui, je voulais insister sur un point important, puisque maintenant que je suis parti de Vatican II, à partir de Vatican II, je remonte à la source. En fait, c'est ça l'idée. Il y a un très beau texte d'ailleurs de Vatican II sur la révélation qui est tout à fait fondamental. Hein. C'est le Christ qui est la source de la révélation. Avant, le Concile de Trente avait formulé un peu les choses différemment. Bon, le Christ comme plénitude de l'Écriture. Donc, je voudrais aujourd'hui, comme accomplissement, si vous voulez, des Écritures. Je voudrais maintenant donc souligner avec vous, revenir à la source biblique et puis faire un petit focus sur Bible et morale. Alors, Bible et morale, ça a l'air d'être un sujet qui va de soi. En fait, c'est un sujet qu'il est très difficile de traiter parce qu'il est immense, d'abord, la Bible, et puis parce que les liens entre Bible et morale ne sont pas si spontanés que ça. Parce que, on va dire, la Bible, c'est l'affaire des exégètes, et puis la morale, c'est l'affaire des théologiens, et parmi les théologiens, en plus, une espèce bizarre qu'on appelle les moralistes. Bon. Alors, comment lire la Bible, finalement, quand on fait de la théologie, et en particulier quand on fait de la théologie morale? Alors, il y a mille et une façons de faire. Je vais vous suggérer quelques points de repère, et puis je pense qu'à partir de ces quelques points de repère, vous pourrez entrer dans, j'allais dire, le vif du sujet, c'est-à-dire, comme disait le père de l'Église, hein, prends et lis l'Écriture. Bon. Alors, je vais d'abord souligner un point de méthode. Un point de méthode qui est très souvent souligné, c'est comme la différence entre éthique et morale. Ce point de méthode-là que je vais donner, il est très souvent abordé, très souvent traité. Il est, on pourrait presque le qualifier du péché, c'est le péché mignon, si vous voulez, des théologiens quand ils lisent la Bible, et en particulier des moralistes. Mais on retrouverait ça dans les textes du magistère. C'est finalement de prendre la Bible, le texte de la Bible, pour un prétexte. C'est-à-dire que le texte de la Bible peut devenir un prétexte, et il y aurait une enquête à faire aussi, pas seulement chez les théologiens, mais dans les textes récents du magistère. Hein, vous pouvez, alors, c'est une enquête très amusante à faire par temps de confinement. C'est quand même un petit peu ingrat, mais enfin, si vous avez sous la main, ce qui n'est pas évident, des textes du magistère, si vous allez sur le site du Vatican, vous prenez les déclarations que j'ai mentionnées dans mon document écrit, et vous regardez, par exemple, Humanae Vitae, enfin les encycliques morales, Donum Vitae, vous regardez la splendeur de la vérité, vous regardez tout ça, Et puis, vous regardez les notes de bas de page de ces grands textes romains. Et vous verrez une des tendances un peu fâcheuses de tout à chacun, hein, quand on fait vite les choses, quand on lit l'écriture, ce qu'on fait comme théologien, y compris nous, hein, théologiens en herbe, spontanément, on fait quoi? On fait une énorme erreur. On pense en théologien chrétien, on élabore un raisonnement, et dans un second temps, on va chercher la Bible. Et on se dit, mais comment la Bible va justifier mes propos? C'est-à-dire, au lieu de laisser parler la Bible, ce qu'elle a à nous dire en morale, par exemple, hein, c'est ça qui nous intéresse. Je prendrai des exemples après. On construit d'abord un raisonnement, parce qu'on veut montrer quelque chose. Alors, pour le théologien moraliste, souvent, et pour le magistère, a fortiori, on veut définir une norme morale, par exemple. Alors, on définit une norme morale. Et puis, on se dit, ah, mais l'écriture doit bien en parler. D'ailleurs, j'ai un vague souvenir dans la Genèse. Et donc, dans un second temps, on prend sa Bible, on ouvre sa Bible, et puis on dit, ah, bah oui, c'est bien ce que je pense. D'ailleurs, la Bible le dit. C'est-à-dire qu'on fait l'inverse du travail qu'il faudrait faire comme lecteur de la Bible, c'est-à-dire prendre le texte biblique, en recevoir quelque chose, et ensuite conclure comme théologien ceci ou cela. Alors ça, c'est une erreur de méthode qui est très courante. Je vais donner un exemple auquel j'ai pensé parce que en préparant ce, je me suis dit dans ma tête à quoi je peux penser. Par exemple, c'est cash hein, ce que je vais raconter, mais le texte bien connu, trop connu de Sodome et Gomorre hein, dans Genèse 19. Tout le monde connaît ce texte, on croit qu'on le connaît. On a même l'exemple de films qui l'ont mis en scène avec, Sarah, Lot, qui, après la chute de Sodome et Gomorre, Et puis, on connaît l'expression française « sodomite », par exemple, on a ça. Donc, on a notre culture littéraire, notre culture biblique, notre spontané, je dirais, à l'esprit, et forcément, quand le magistère veut parler, par exemple, de l'homosexualité, et il le fait dans certains textes, il y a une condamnation de l'homosexualité. Bon. Et puis, pour justifier cette condamnation, eh bien, on cite en note de bas de page ou dans le corps du texte Genèse 19. Voilà une façon de mettre en lien Bible et morale. Eh bien, ça ne marche pas comme ça, puisque les biblistes qui ont fait le travail et qui ont travaillé, alors justement, depuis Vatican II, sur le texte de Genèse 19, ces biblistes ont montré, je pense Xavier Thévenot, comme moraliste, il a travaillé à partir de ça, mais Xavier Thévenot a recueilli le travail des exégètes depuis Vatican II pour montrer que le texte de Genèse 19, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, est un texte qui parle d'abord du refus de l'altérité et qui est d'abord une réprobation, une stigmatisation du refus de l'autre avant d'être une réprobation des actes homosexuels. Alors ça, ça remet les choses, si vous voulez, dans le bon sens, ce qui suppose depuis Vatican II, mais ça a commencé même dans les années 50, ce qu'on appelle la méthode historico-critique, c'est-à-dire une méthode qui a été inventée à l'école biblique et archéologique française, s'il vous plaît, de Jérusalem, hein, par le père Lagrange, Dominicain Lagrange, et qui donc considère le texte sacré comme un texte. Et donc, on soumet le texte biblique à tous les instruments de la culture historique, littéraire, géographique, etc. Hein, on pourrait faire le travail pour le récit de la mer Rouge. Hein, c'est plus Cécile B2000 avec la mer qui se sépare et les Égyptiens qui passent. Hein, c'est le peuple hébreu suivi des Égyptiens. C'est évidemment, probablement, dit la critique historique, un moment où cette mer était à sec. Et donc, effectivement, on a pu. L'épisode s'est passé non pas en quelques jours avec la mer qui s'ouvre et qui se referme, mais l'épisode s'est passé sur des semaines et des mois, de sorte que quand les Égyptiens sont arrivés, après le peuple hébreu, la mer avait repris son niveau. Voilà. Alors, pour Genèse 19, c'est le même exemple. L'exégèse historico-critique a montré que ce texte était d'abord un texte qui condamnait le refus d'autrui, si vous voulez. Plus que l'homosexualité, qui est en plus d'ailleurs un terme anachronique et absolument inconnu de la formulé comme ça, en tout cas de parler dans les temps bibliques. Hein. Donc voilà, une méthodologie de base, c'est laisser parler le texte et ensuite en tirer des conclusions théologiques. Alors que souvent, nous faisons le chemin inverse dans notre tête, on a déjà l'idée, parce qu'on en a déjà entendu parler, parce que c'est dans la culture, etc. Et après, on prend la Bible, on dit « Ah bah oui, regardez, d'ailleurs, ils disent ça ». Ça, c'est très important parce que ça évite les lectures fondamentalistes ou littéralistes, si vous voulez, de l'écriture, y compris quand on fait de la morale. Hein. Entre parenthèses, c'est tout le problème du créationnisme aux États-Unis en ce moment. Hein. Je disais, l'exemple des créationnistes aux États-Unis, c'est un exemple plus grandiose encore, puisque bon, on a moins l'occasion de voyager en ce moment, et c'est peut-être pas demain qu'on ira aux États-Unis, mais sachez qu'il y a des musées entiers aux États-Unis consacrés au créationnisme, c'est-à-dire qui vous restitue la chronologie soi-disant exacte, la vraie, depuis la création d'Adam et Ève, depuis le premier, donc les animaux, etc., avec des chiffrages chronologiques totalement erronés. Mais ça, c'est la lecture littéraliste. Alors donc, ça, c'est le point de méthode que je voulais souligner, qui me paraît très important, et je vous dis, si vous voulez regarder comment fait le magistère, vous pouvez faire cette enquête, elle est très intéressante, comment le magistère se sert lui-même du texte de la Bible. C'est-à-dire, est-ce qu'il réfléchit avant et qu'il va trouver une justification dans l'écriture, ou est-ce qu'il laisse parler le texte biblique et puis il conclut, il réfléchit. Bon. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il y a mille et une façons d'aborder ce lien entre plural. Je vais tout de suite vous proposer la formule suivante. Bien connu, donc Bible, ça vous surprend pas, vient de Biblia. Biblia, ça veut dire les livres en grec. Alors c'est très important parce que pour le moraliste, quand on regarde la Bible, quand on lit la Bible, on a affaire à des livres très différents. Donc on a d'emblée affaire à une pluralité de livres. Avec, et c'est mon option, et c'est pas seulement mon option. Elle est largement partagée, avec des morales bibliques ou des éthiques dans la Bible, ou encore des anthropologies. Anthropologie, la définition la plus simple, c'est conception de l'homme. Donc, il y a des conceptions de l'homme et de la femme dans la Bible. Du coup, faire toujours attention quand on entend l'expression quelle est la morale de la Bible ? La morale de la Bible, c'est dans quel livre, quel passage, quel auteur, quel verset, quelle circonstance, quel genre littéraire, il n'y a pas une morale biblique, il n'y a pas une anthropologie biblique, il y a une pluralité de morale et d'anthropologie différentes, alors que l'on peut certainement organiser autour de thèmes communs, par exemple la différence. On parlait dans Genèse 19, je parlais du refus de l'altérité. Je pense que tout le corpus biblique essaie de montrer que l'altérité, c'est bien et qu'il faut refuser ceux qui refusent l'altérité. Bon. Mais on peut organiser autour de thèmes communs, mais on a quand même affaire à un patrimoine très pluriel, très varié. Alors, je voudrais illustrer par quelques thèmes puisés dans le Nouveau Testament. Alors, je pourrais puiser dans l'Ancien, mais là, on est parti pour une dizaine de cours en visioconférence. Hein, donc, je vous propose d'abord, parce que je pense que c'est quelque chose qui vous fera à distance En prenant le Nouveau Testament, vous pourrez très vite faire l'exercice que je vais vous proposer aujourd'hui et qui me paraît une enquête facile à faire et à vérifier par vous-même. Le Nouveau Testament, ça a l'avantage d'être beaucoup plus court et vous allez voir, ça va être très vite évocateur. Dans le Nouveau Testament, qui est quand même pas énorme quantitativement, qui se lit quand on est chez soi, confiné en quelques heures, bon. Il y a déjà plusieurs morales. Il n'y a pas une morale, il y a plusieurs morales. Je vais donner quelques exemples. Je vous propose de partir des lettres de Paul. Pourquoi? Parce que les lettres de Paul, ce sont les lettres, c'est le corpus le plus ancien du Nouveau Testament, si je puis dire. C'est-à-dire les lettres de Paul, en particulier les premières et deuxièmes lettres aux Thessaloniciens, on est un demi-siècle après la mort de Jésus. C'est ce qu'on fait de plus ancien dans le Nouveau, si vous voulez, hein. Sachant que, pour rappel, on sait maintenant que Paul n'a pas écrit toutes les lettres de Paul, hein, puisque il n'y avait pas de notion de propriété littéraire dans l'Antiquité, et donc il y a certaines lettres de Paul qui probablement sont pas écrites par lui, mais par une école ou des disciples de Paul, voilà, qui se sont attribués, si vous voulez, le nom, mais c'était pas gênant dans l'Antiquité. Alors, première et deuxième aux Thessaloniciens, ça c'est vraiment Paul. Et si vous avez feuilleté ces lettres, qu'est-ce que vous constatez? Ben, vous constatez la croyance en la résurrection, elle est naissante. Et surtout, vous avez affaire à des tout premiers disciples de Jésus qui attendaient le retour de Jésus de leur vivant. Hein? C'est la toute première génération. Donc, d'ailleurs, c'est écrit, là pour le coup, on peut le lire. Aisément, n'est-ce pas? Ils attendent le retour de Jésus de leur vivant. Et vous avez ça dans plusieurs lettres, vous retrouvez ça dans les Corinthiens, n'est-ce pas? Enfin, c'est déjà un peu plus, mais quand même. On attend le retour de Jésus imminent. Donc, on est dans un contexte de fin des temps, dans les premières lettres de Paul, les plus anciennes. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que comment voulez-vous faire de la morale alors que vous êtes dans un climat de fin des temps? La morale, ça ne sert plus à rien. C'est-à-dire, on ne va pas organiser la vie morale, on ne va pas donner des préceptes moraux, nouveaux, définitifs, alors que le retour de Jésus, il est pour dans quelques jours, quelques mois. Hein? Alors vous avez par exemple, dans des, ce, ça vient l'idée maintenant, cette mise en garde qu'on ne comprend pas très bien de Paul quand il dit si vous êtes marié, restez-le. Si vous n'êtes pas marié, vous ne mariez pas. Hein? Alors, on a l'impression de se dire mais c'est quoi la morale de Paul? Il essaye de dire aux gens il a l'air de relativiser le mariage. Non, mais c'est pas qu'il relativise le mariage. C'est simplement qu'il est dans un contexte de fin des temps et qu'il dit aux gens eh ben, si vous êtes marié, restez-le. Parce que de toute manière, le Christ va revenir dans quelques jours, quelques mois, c'est imminent. Et si vous n'êtes pas marié, ben ce n'est pas la peine de songer à vous marier. De toute manière, Jésus revient, donc pas besoin de. On n'a pas le temps pour la morale dans un contexte de fin des temps. Donc, mettez-vous dans la perspective, vous allez à la messe et vous entendez lecture de la première lettre de Paul aux Corinthiens, etc. Bon, eh bien, ce qu'on entend dans ces cas-là, c'est. Et quand on ne comprend pas, on se dit, tiens, il n'est pas très sérieux ce Paul du point de vue de la morale quand même, de nous dire que le mariage, ça n'a pas l'air important, que ben non, rien n'est important du point de vue de la morale quand on sait que Jésus revient, va revenir avant même que l'on meure. On n'aura même pas besoin de passer par la mort, Jésus va revenir tout de suite. Bon, alors ça, c'est vraiment important de le concevoir, hein. Bon, je prends l'exemple de Luc maintenant. Parce que Luc, c'est tout à fait différent. On pourrait dire la formule, c'est quelle est la morale de Luc? Bon. Alors, Luc, c'est un peu plus tardif. Donc, Luc, c'est l'évangile, c'est les actes des apôtres. Bon, voilà. C'est un peu plus tardif, on est déjà en 80, autour de, Ouais, 70-80, je ne sais pas ce que disent les exégètes aujourd'hui, mais c'est dans ces années-là, 70-80 après Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est déjà plus la même génération. C'est-à-dire que Jésus n'est plus revenu, n'est pas revenu tel qu'on l'espérait. C'est-à-dire que ce sont les chrétiens qui vont se poser la question, qui vont commencer à se poser la question de la morale. Les chrétiens se posent la question de la morale au moment où l'Église, où le temps de l'Église s'ouvre, c'est-à-dire au moment où il faut bien s'inscrire dans l'histoire. On pensait que Jésus allait revenir, il n'est pas là. Donc, si je veux dire, on en prend pour du temps. L'Église commence, on s'inscrit dans l'histoire et les générations se suivent. Donc là, il faut mettre en place une morale. Vous voyez? Là, la morale devient intéressante. Et on voit bien ça chez Saint Luc. Alors, ce qu'on voit chez Saint Luc, c'est une tentative, une des premières tentatives de définir l'identité morale du chrétien. C'est-à-dire, l'Église va commencer à s'inscrire dans l'histoire. Comment va-t-on reconnaître les chrétiens des autres hommes? Qu'est-ce qui va les distinguer? Qu'est-ce qui va être, comme on dirait aujourd'hui, l'identité? Eh bien, Saint Luc propose cette définition, c'est valable dans son évangile comme dans les actes. Ce qui va définir l'identité morale du chrétien, ce qui va le distinguer de tout autre comportement, c'est la pratique de la miséricorde. C'est-à-dire, on reconnaît un chrétien dans l'histoire, à ceci, il pratique une morale de miséricorde. D'ailleurs, on qualifie souvent à juste titre l'évangile de Luc comme l'évangile de la miséricorde. C'est tout à fait ça. On a affaire à une pratique morale, une identité morale du chrétien autour, définie par l'idée de miséricorde, la pratique de la charité miséricordieuse. Troisième exemple dans le Nouveau Testament, Matthieu, l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, alors c'est un évangile, l'idée qui m'est venue, mais c'est une caricature, j'allais dire, c'est un évangile un peu plus moralisateur que les autres. Un peu plus moralisateur, en fait, ça veut dire que c'était la théorie il y a déjà un moment, mais vous savez, les théories exégétiques, tous les 5 ans, tous les 5 ans, on les change, et c'est un petit peu comme c'est un petit peu comme les ordinateurs qui changent n'est-ce pas, de process, de Windows, etc. Donc, en exégèse, c'est pareil. Mais ce qu'il est convenu encore, je crois, de considérer, c'est que l'évangile de Matthieu s'adresse d'abord à des communautés d'origine judéo-chrétienne. D'où, par exemple, les formules de Matthieu, ne changez pas un iota. Voilà, ne changez pas un iota. Donc c'est un évangile qui est centré sur, adressé à des communautés chrétiennes venues du judaïsme, donc très soucieuses de la loi, plus que les autres évangiles. Et donc la caractéristique de l'évangile de Matthieu, si vous le reprenez ces jours-ci, vous verrez un portrait de Jésus, parce que finalement les évangélistes font chacun un portrait de Jésus. Le portrait de Jésus dessiné par Matthieu, c'est un Jésus soucieux de la loi, soucieux de montrer que Jésus respecte la loi. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Donc on a un portrait de Jésus qui accomplit la loi, qui ne l'éradique pas, il n'est pas venu pour, mais il accomplit. Vous voyez, donc le thème central de la morale de l'évangile de Matthieu, c'est la loi. Chez Luc, c'est la miséricorde. Chez Jean, alors Jean, vous savez, c'est pas les synoptiques, c'est un évangile très particulier où vous avez comment dire, des scènes d'ailleurs qui n'existent que chez Jean, dont on a longtemps pensé d'ailleurs que parce qu'elles existaient que chez Jean, c'est des scènes fictives. En réalité, c'est moins sûr que ça. Mais vous ne voyez pas chez Jean de souci moral particulier. Il n'y a pas vraiment de morale johannique. Le grand souci de Jean, c'est la question du salut. C'est-à-dire, Il y a d'ailleurs un très beau livre qui doit s'appeler La communauté du disciple bien-aimé. Et c'est un très beau livre parce qu'il montre bien que le souci premier de Jean, c'est vous êtes sauvés si vous rejoignez la communauté du disciple bien-aimé. Donc, s'il y a une morale chez Jean, c'est rejoindre la communauté du disciple bien-aimé pour être sauvé. Il n'y a pas plus de morale que ça chez Jean. Son obsession, si j'ose dire, salutaire, c'est de rejoindre, d'être, offrir le salut. Jésus offre le salut, il est le salut, et pour être sauvé, il faut rejoindre, viens et suis-moi, il faut rejoindre la communauté du disciple bien-aimé. Donc, s'il y a un évangile, effectivement, qui est plus moral que les autres, c'est vraiment Matthieu, hein, c'est clair. Hein. Alors, vous avez aussi des questions, plein de questions qui seraient intéressantes à traiter, mais j'en mentionne une là, c'est ce qu'on appelle, là je reviens chez Paul, dans les lettres qui sont de Paul ou attribuées à Paul, je pense en particulier à ce qu'on appelle les codes domestiques. Alors, les codes domestiques, domus c'est la maison, hein, donc il s'agit déjà de morale familiale, chez Paul ou chez les deutéropauliniens. Vous avez ce qu'on appelle les codes domestiques. Alors, le code domestique, c'est quoi? C'est le récit qu'on ose difficilement maintenant prendre dans les célébrations de mariage, mais il est encore proposé dans le rituel. Hein. Par exemple, ces femmes, soyez soumises à vos maris. Voilà. Alors, cette expression-là qui, à l'époque de MeToo, passe plus du tout, hein. Femmes, soyez soumises à vos maris, qui, à l'époque de la parité, etc., ne passe plus du tout, c'est quand même un texte majeur, ce qu'on appelle les codes domestiques chez Paul, hein, ou chez Deutéropolitain, peu importe pour ce que je veux dire ici. Il y a quand même l'idée de soumission, ça, quand même, ça passe mal. C'est d'ailleurs le procès habituel qu'on fait à Paul quand on dit qu'il est misogyne ou qu'il est esclavagiste. Il y a de nombreux procès comme ça fait à Paul. Alors, il y a celui de la soumission, en effet. Je cite ce texte-là parce que les codes domestiques posent la question suivante. On pourrait poser à d'autres, c'est des questions que le moraliste se pose aujourd'hui quand il lit la Bible, c'est à quel point les normes morales définies par Paul et que l'Église a reprises très longtemps sont encore des normes morales qu'on peut garder aujourd'hui. Et donc, je donne l'exemple des codes domestiques, mais il y en aurait plein d'autres, hein, notamment... autour de la question de la nature, hein, à quel point aujourd'hui, quand on est théologien moraliste et quand on lit la Bible, on est contraint de garder, si j'ose dire, tel quel le texte biblique, femmes, soyez soumises, hein, à quel point on est obligé de le faire, c'est-à-dire dans quelle mesure les normes morales qui nous viennent de l'Écriture sont révisables. Voilà, c'est la grande question, sont révisables, c'est-à-dire pour éviter le littéralisme. Alors, j'introduis, puis c'est une façon de terminer ce petit bouquet-là que je voulais vous proposer aujourd'hui. Hein. Je vais introduire par un gros mot pour terminer, qui s'appelle le mot herméneutique. Voilà. Herméneutique, c'est un mot pour dire interprétation. On est obligé, quand on lit le texte biblique, d'appliquer une herméneutique, de rechercher une herméneutique du texte. Alors, l'herméneutique ne se fait jamais tout seul. On peut, hein, c'est quand même risqué, hein. Vous savez, c'est comme dans certains groupes, je lis la parole en direct et Dieu m'a dit que... Hein. Bon, voilà, le texte a parlé pour moi, c'est toujours très risqué. L'herméneutique en Église, elle se fait, c'est l'herméneutique faite par la communauté croyante, sous le discernement de l'Esprit-Saint, et quand on est catholique, l'autorité du magistère. Bon. Mais on est toujours obligé, quand on lit des textes comme ça qui semblent avoir vieilli, hein, de se poser la question, comment je les interprète aujourd'hui pour qu'ils aient un sens aujourd'hui dans l'Église qui est la mienne aujourd'hui, dans la communauté, la famille qui est la mienne aujourd'hui. Ça, c'est un job pas facile pour le théologien moraliste, hein, c'est de recevoir ces textes anciens dans les contextes d'aujourd'hui. Et là, il y a tout un travail d'interprétation et d'appropriation qui n'est pas si facile que cela à mener. Donc, conclusion. Le texte biblique est un texte, je donnais quelques exemples dans le Nouveau Testament, mais c'est un texte pluriel qui rend pratiquement impossible de dire « la Bible dit que ». Ah ben dans la Bible, la morale c'est que. Allons voir, hein, quel texte, quel auteur, quel contexte et comment traduire ce texte ancien dans le contexte d'aujourd'hui. Et là, il y a, pour le faire, il y a tout le travail de la communauté croyante et sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Donc ça, c'est un des grands défis du moraliste qui lit la Bible et qui a affaire à un texte pluriel. Ce que je vous dis aujourd'hui, en 2020, est possible parce que effectivement, il y a eu tout le travail du Concile Vatican II et en amont, d'ailleurs, avant Vatican II et depuis de l'exégèse moderne. C'est pas du tout comme ça que se seraient posées les choses au début du XXe siècle, par exemple. Voilà pour mon propos d'aujourd'hui sur Bible et morale, quelques aperçus finalement, et j'espère bien que vous aurez la capacité de vous replonger dans tel ou tel texte que j'ai cité là de me poser les questions qui vous paraîtront utiles, peut-être avec d'autres exemples, avec d'autres passages dans notre interaction. Vous voyez, si j'avais ouvert le dossier de l'Ancien Testament, c'est colossal, hein. J'aurais pu, par exemple, bien entendu, faire un travail sur ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament, alors, les petits prophètes. On les appelle à tort les petits prophètes parce que c'est des livres qui sont plus courts que les autres, mais qui développent une morale sociale, économique et sociale, tout à fait passionnante et qui serait aussi à développer. Mais j'ai voulu faire un focus, quelques exemples sur le Nouveau Testament.
Bon.
Voilà Jean-Yves.
Merci.
Mon propos d'aujourd'hui.
Moi, j'avais une première réaction, je ne sais pas si je le mettrai après, mais sur le texte de Paul que tu cites. Et qui est proposé pour les mariages, mais rarement choisi.
Oui, rarement maintenant.
On l'a entendu quand même une ou deux fois. Et en fait, quand on entend la partie « Femmes, soyez soumises à vos maris », on oublie toujours ce qu'il y a après, et qui est « Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église ». Il y a quelque chose comme ça qui est dit.
Oui.
Et quand on voit le défi pour l'homme de respecter ça, je pense que ça va largement au-delà du défi qui est envoyé à la femme.
Oui, alors c'est la deuxième partie du texte que tu cites.
Oui.
C'est d'ailleurs un texte qui est pas seulement moral, mais qui développe le thème du salut, c'est-à-dire que c'est le grand thème de l'alliance, c'est-à-dire le mariage reflète, l'homme et la femme reflètent l'alliance que le Christ et l'Église ont conclue, si je puis dire, enfin, puisque c'est la volonté du Christ, époux, épouse, et c'est ce thème-là qui est enchâssé dans l'Ancien Testament, depuis la Genèse. L'homme, il les créa homme et femme, et c'est ce thème de l'homme et de la femme qui est un thème moral aussi, puisque c'est le thème de la différence entre l'homme et la femme. Ce thème moral n'a de sens ou de pertinence que parce que c'est d'abord un thème, c'est le thème du salut, c'est-à-dire l'homme et la femme reflètent l'alliance salvifique entre le Christ époux et l'Église épouse. C'est par exemple la raison pour laquelle, et ça c'est l'argument, c'est donc une très bonne question, c'est l'argument théologique, hein. L'argument théologique c'est qu'on ne peut pas ordonner des chrétiennes prêtres, parce que le texte de l'Écriture sur lequel s'appuie cette interdiction, c'est ce texte qui évoque un reflet le reflet quand le prêtre célèbre, le prêtre étant un homme, il tient la position de l'époux face au peuple. Hein. Donc cette alliance entre l'homme et la femme, et cette alliance entre le Christ époux, l'Église et l'épouse, est un thème qu'on trouve en théologie morale et qu'on trouve en théologie des ministères, ministères ordonnés, et en particulier, il justifie, pour les catholiques en tout cas, l'interdiction d'ordonner des femmes prêtres. Donc là, on voit que ce texte-là que tu évoques, il est moral, mais il est beaucoup plus que moral. Il est vraiment... d'ailleurs, je redirai alors après avec la théologie des pères de l'Église, hein, c'est très difficile d'isoler la théologie morale comme une discipline à part. Hein, mais nous, on le fait aujourd'hui parce que nous sommes héritiers des sciences modernes théologiques. Hein, mais en réalité, quand on lit la Bible, c'est impossible. Et la deuxième partie du texte que tu évoques, il montre le lien absolument insécable entre... on pourrait appeler entre la morale et le salut.
D'accord. Et donc, la partie sur les pères de l'Église, ça sera l'objet du cours de la semaine prochaine, c'est ça?
Oui, la partie sur... c'est-à-dire, alors je peux déjà en dire deux mots, hein, c'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est que les pères de l'Église proposaient une méthode originale de lecture de l'écriture et avait des thèmes moraux à part entière. Donc il y a une morale des pères de l'Église ou des morales d'ailleurs des pères de l'Église dont on pourrait penser qu'elle est totalement datée. Les pères de l'Église une petite instabilité de la connexion et ça revient, voilà. Les pères de l'Église avaient une morale qui peut sembler datée, mais la lecture, la manière de lire l'écriture comme théologien moraliste, on peut la conserver aujourd'hui largement, parce qu'elle est toujours aussi valable. Ce qui est tout à fait étonnant. Je vous dirai pourquoi. Quand on lit l'écriture nous-mêmes, d'ailleurs, on se comporte comme des pères de l'Église sans le savoir. Hein. Mais ils proposaient une méthode comme théologien de lecture de l'écriture qui est certes très ancienne, mais toujours valable aujourd'hui. Et donc, j'essaierai de vous la présenter la prochaine fois.